Bonjour, bienvenue ici pour une rencontre sous le signe de l'autobiographie, de la psychanalyse, de la famille et tant d'autres choses, dans le cadre du festival Effraction, édition évidemment virtuelle cette année, en compagnie de Sarah Chiche. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors bon, comme on s'en doute au vu de cette présentation, vous êtes romancière, vous êtes également psychanalyste, et votre dernier roman Saturne, publié aux éditions du Seuil, a été très remarqué lors de la rentrée littéraire. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, qu'il était question de romans et d'autobiographie, je vois sur cette couverture de roman le terme roman. Est-ce que vous revendiquez, d'abord, avant qu'on rentre dans le contenu de cet ouvrage et de votre travail littéraire, ce terme de roman ?
Ah oui, je le revendique absolument parce que même si je me suis servie pour recomposer ce texte, je dirais, d'un certain nombre de documents historiques, notamment sur l'Algérie, la guerre d'Algérie, ou d'un certain nombre de lettres que l'on peut trouver telles dans le roman, pour autant, je savais en commençant son écriture que je ne savais rien, c'est-à-dire que c'est aussi l'histoire d'une absence d'image, d'un homme dont on ne se souvient pas l'avoir vu ni vivant ni mort. Donc quand vous ne savez rien, tout est possible, tout est à inventer. C'est là que commence la fiction.
Alors, un homme et pas n'importe lequel dans votre vie, puisque c'est de votre père dont il est question dans Saturne. Ce n'est pas la première fois que vous évoquez la question de la famille, notamment dans Les Enténébrés, votre précédent roman. Et donc vous vous attachez à ce père qu'en fin de compte, vous ne connaissez pas ou si peu en quelque sorte.
Oui, et je crois que décidément, aimer n'a rien à voir avec connaître. Et j'en avais l'intuition, mais je l'ai vérifié dans l'écriture de ce livre qui commence par une déflagration, c'est-à-dire que pour moi, il était hors de question jusqu'à présent d'écrire sur mon père. Et puis, il y a eu cette rencontre qui ressemble un peu à un début de film et qui, pour autant, est tout à fait réel. Je me trouvais en mai 2019 au Salon du Livre de Genève quand, tout à coup, après une conférence, une femme que je ne connaissais absolument pas vient à ma rencontre et me dit « Vous ne savez pas qui je suis, mais mon nom ne vous dira rien. Mais moi, j'ai bien connu votre père, votre oncle et vos grands-parents. C'était à Alger pendant la guerre d'Algérie. » Et bon, passer la sidération dans laquelle cette rencontre fantomatique m'a laissée, je me suis dit qu'il fallait que c'était un appel, en fait. Et je me suis souvenue de cette promesse, au fond, que je ne connaissais que trop, promesse faite dans la clôture d'une chambre d'enfance, nuit après nuit, quand j'étais petite, promesse renouvelée à l'adolescence devant une tombe, la promesse d'écrire cette histoire. Donc l'histoire de cet homme, mort très jeune, à 34 ans, scandale atroce mais scandale banal. L'histoire aussi d'un monde perdu, cet immense empire médical dans lequel il a grandi, dont il devait, avec son frère, hériter, ce qui ne s'est donc pas fait. L'histoire aussi de ce monde, donc... avec l'argent toujours comme force, jamais comme force aventureuse, mais vous voyez la trop grande richesse matérielle, mais toujours comme force de mort, l'histoire d'un amour fou, celui que cet homme, Harry, a eu pour ma mère, Eve, qu'on avait possiblement déjà croisé dans Les Enténébrés, Eve. Et puis aussi, à cette première partie, placée sous le signe de la démesure maniaque, de l'hubris, de l'excès, excès d'argent, excès d'amour, et bien que s'oppose en tout point la deuxième partie, qui est celle d'une dépossession, la chronique d'une mélancolie. L'enfance qui fut la mienne, c'est vrai, la jeunesse qui a été la mienne, celle d'une enfance hantée par le deuil. Qu'est-ce qui se passe quand vous vivez au milieu de gens qui, comme dirait Brel, que le deuil habille, vous voyez, et qui flânent comme ça de mort en mort, les gens autour de vous tombent les uns après les autres. Et puis il y a ce premier grand amour de ma vie, mon père, que je ne me souviens pas pour autant avoir vu ni vivant ni mort. Et bien quand vous ne vous souvenez pas avoir vu quelqu'un qui vous, pour autant vous a donné le jour, ni vivant ni mort, je crois que ça crée les conditions d'un étrange rapport au monde. Et puis possiblement les conditions d'une écriture aussi.
Saturne, roman des origines à plus d'un titre, donc, que vous nous avez ici présenté, dont on voit à peu près, j'allais dire, les principaux centres d'intérêt. Mais avant tout, un roman, c'est une langue, celle de l'auteur. Et pour qu'on plonge véritablement dans ce livre, j'aimerais bien entendre un premier extrait que vous allez nous lire.
On entrait dans l'automne. Il le veillait depuis 2 jours. Au matin du 3e jour, les ténèbres tombèrent sur leurs yeux. Sa mère était affaissée sur une chaise dans un coin de la chambre. Elle avait posé sur les genoux un mouchoir rougi de sang. Son père, à son chevet, lui caressait le front comme on berce un tout petit enfant. Sa femme lui tenait la main. Ses doigts étaient bleuis de froid. Ses joues livides. Elle brûlait, de sa beauté blonde un peu sale dans une robe trop somptueuse. Il était étendu, inerte, enfermé en lui-même, sans plus de possibilité de parler autrement qu'en écrivant sur une ardoise qu'il gardait à portée de main. On avait placé une sonde dans sa trachée, reliée à un respirateur artificiel. Un tuyau lui sortait du nez. De temps en temps, ses yeux allaient du scope, sur lequel on pouvait suivre le rythme de son cœur, le taux d'oxygène dans son sang, la tension artérielle et sa température, au visage de sa femme, puis il revenait sur le scope, puis au visage de sa femme. Il la regarda. Il la regardait. Ses yeux, ses mains, ses lèvres, leur silence, leurs mots, leur joie, leur chagrin, leurs souvenirs. Il sentait la pression de ses doigts sur les siens. Il regarda sans doute cette main agrippée à la sienne de la même manière que lorsqu'elle était au bord de jouir, qu'il prenait son visage entre ses paumes pour l'embrasser, qu'elle liait ses doigts aux siens, penchant la tête de côté, cachant ses yeux sous la masse de ses cheveux qui retombaient en torsade sur sa bouche, soudain plus lointaine à l'homme qu'il aimait jusqu'à la brûlure, devenant la nuit dans laquelle ils tombaient tous deux.
Merci Sarah pour cette lecture. Justement, cette scène, quelle est-elle à proprement parler et pourquoi commencer Saturne sur cette scène qui est glaçante ?
Ça commence donc par l'agonie, les derniers jours d'un homme qui va mourir, sa famille autour de lui. J'ai pu dire que j'avais mis 43 ans à pouvoir écrire cette scène. J'en ai 44. Mon père est mort quand j'avais 15 mois. Face à cette absence d'image, l'absence inaugurale, c'est-à-dire cette scène, toute sa famille est autour de lui, sauf une personne, c'est la petite fille qui n'a pas pu voir cette scène. C'est vraiment la question de l'irreprésentable. Et donc, pour l'écrire, je me suis servie de ce que je savais de façon la plus plate possible, la plus immédiate, sur ce que c'est quand vous êtes en réa et que vous allez mourir dans les heures, peut-être dans les heures ou dans les jours qui viennent. Mais aussi, j'ai eu recours à la peinture, notamment un tableau de Bassano qu'on trouve au Louvre et qui s'appelle « La déposition du Christ ». Et si vous regardez attentivement, vous verrez que j'ai glissé des éléments concernant la mère, le père, la femme, l'infirmière vêtue de vert qui va venir à un moment donné. On les retrouve tous dans le tableau de Bassano et ils sont aussi là. Il était très important pour moi justement de pallier cette absence d'image par un recours justement... un recours au tableau que j'aime. Et puis parce que sinon, c'est abominable. On ne peut pas écrire une telle chose. On ne peut pas. Déjà, pouvoir la penser, c'est impensable. Et donc, on trouve des biais.
Travail d'imagination que celui de la romancière, au sens de créer des images, en quelque sorte. Et c'est en cela où votre livre est forcément une fiction, parce que votre père, vous ne l'avez pas connu, donc vous avez eu quand même une première base et vous créez des scènes à proprement parler. Justement, sur quelle, j'allais dire, base documentaire vous avez pu établir cette vie en étant, si possible, au plus proche de la réalité,
oui,
de la vérité?
Alors, ce sont des souvenirs de souvenirs, des choses qu'on a pu me raconter, que ma grand-mère paternelle m'a raconté, par exemple, s'agissant de mon père et de mon oncle en pension. C'est-à-dire quand du jour au lendemain, ils ont dû quitter l'Algérie et qu'ils se sont retrouvés dans cette espèce d'internat qu'on croirait sorti d'un roman de J.K. Rowling. Voilà, c'est un peu Harry Potter, mais en fait, c'est beaucoup plus glaçant que cela. C'est-à-dire que à ce moment-là, ces deux frères qui n'ont qu'un an de différence, ils s'opposent déjà en tout point. Et ça m'intéressait de travailler ce motif-là, de l'amour et de la haine entre frères. C'est un peu Caïn et Abel.
On y pense en tout cas, oui.
Oui, absolument. Et puis voilà. Et donc, autant l'aîné va grandir, grossir et s'épanouir de toute son autorité, de toute sa morgue, de toute son assurance. Mais le cadet, mon père, déjà dès l'enfance, il n'est déjà que la pâle copie de l'autre.
Pourtant, les deux sont élevés, comme vous le dites à un moment, un peu comme des jumeaux en tout cas. Mais on s'aperçoit très vite que, voilà, oui, c'est presque une photocopie, une copie.
Oui, et ça commence assez tôt. Ça commence dès la nuit, vous savez, quand il y a deux enfants dans une même chambre, il y en a un qui est repu par les caresses de la mère, par les joies du jour et qui s'endort paisiblement, et l'autre qui ne peut pas, qui est taraudé par ses labyrinthes intérieurs, par ses monstres intérieurs et qui, du coup, va aller jusqu'à la fenêtre et regarder le ciel et tomber face à cette expérience que bon nombre d'enfants font quand tout d'un coup, une nuit, on regarde l'immensité du ciel et qu'on se sent absolument microscopique, absolument dérisoire et qu'on comprend que ce monde de l'enfance, un jour, va être perdu. Que ça ne durera pas toujours, ni les parents, ni les grandes joies de l'enfance, ni même le frère qui dort à côté.
Parce que, j'allais dire, ces enfants auraient presque tout pour être très heureux, parce que vous faites le portrait justement de votre grand-père en Algérie et son départ en France, et j'allais dire, une partie du livre, c'est aussi un livre sur la réussite de ce grand-père, parce qu'il a fait, c'est quand même assez étonnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a presque bâti de ses mains ?
Oui, alors, ça raconte donc l'histoire de Joseph qui va construire d'abord en Algérie cet immense empire médical et puis du jour au lendemain éclate une guerre qui longtemps ne dira pas son nom et donc ma famille ils ont dû partir du jour au lendemain et donc ils ont tout laissé, ils ont tout quitté. Omettant des années 60, il a fallu donc tout reconstruire. Et donc, ils se sont livrés, au fond, cet homme, Joseph, dans le roman, mais évidemment inspiré par mon grand-père paternel, il n'a eu que pour objet, alors, de nier le cadavre de la perte. C'est-à-dire, au moins, si vous arrivez en France et que vous reconstruisez tout à l'identique et que vous faites même encore mieux et encore plus fort, alors il n'y a plus de perte, il n'y a plus d'exil, il n'y a plus de manque. Et c'est ce qu'il s'est attelé à faire.
Et en très peu de temps, c'est ça qui est assez étonnant.
C'était un bourreau de travail. Il se disait qu'il ne dormait jamais, dormait très peu, effectivement.
Mais justement, ça crée un conditionnement très particulier, non seulement social, mais familial. Quand ces deux petits garçons vont se retrouver face à une telle, figure paternelle de réussite, c'est quand même un peu écrasant. Et il faut être au niveau du père, d'une certaine manière.
Oui, c'est ça. Alors, ce peut être un grand malheur de ne pas avoir de père, mais ce peut être aussi un grand malheur d'en avoir un, si présent, hein, qui recouvre de son ombre ses enfants. Et donc... J'ai été très marquée par un livre, Le Guépard de Lampedusa, et c'est cela aussi. Pour que tout change, il faut que rien ne change. Et donc, les enfants sont sommés de suivre les traces du père. Ils seront médecins. Discuter cette chose, avoir d'autres désirs.
C'était pas possible, vous montrer qu'il ne pouvait être que médecin.
On ne peut être que médecin. Et donc, on ne peut que reproduire le modèle familial. Et donc, l'aîné Armand va le faire. Ça va être le bon fils qui va faire fructifier tout cela. Et le cadet, Harry, lui, est nocturne, taiseux, il va tout à fait s'écarter de cela.
Alors, à partir de quand ces deux frères, Armand et Harry, vont commencer à se séparer, en quelque sorte? À partir de quand, voilà, il y a une faille à partir de quand vous montrez justement le début de cette faille entre eux?
Alors, bien sûr, oui, il y a le motif de la gémellité. Et puis, il s'écarte, on l'a dit, d'abord en pension, quand l'un est populaire et l'autre est martyrisé. Aujourd'hui, on dirait harcelé, même par ses camarades.
Très chic, d'ailleurs.
Enfin. Oui, une pension absolument très chic. Et voilà, mais ce n'est pas parce que c'est très chic que la cruauté morale n'existe pas. Elle est même encore plus vile et encore plus puante. Mais en tout cas, ils vont s'écarter aussi quand Harry du jour au lendemain, va faire ce passage à l'acte de quitter la fac de médecine. C'est-à-dire qu'il arrive en cours, on est au moment des événements, de peu de temps avant les événements de mai de 68. Puis au moment de s'asseoir, il ne va pas s'asseoir. Et puis il va quitter la fac, il n'y remettra plus jamais les pieds. Et puis là, il va s'enfoncer dans la nuit, les cinémas, le casino. Vous savez, c'est marrant, le casino, parce qu'il ne fait jamais, il ne fait jamais nuit. C'est toujours les lumières artificielles. C'est la version païenne des étoiles, du ciel qu'il aime tant et de ses planètes. Et là où il va cramer dans une joie noire l'argent familial, l'argent du père. C'est une façon de dire avec les moyens du bord, de ne pas cautionner ni ce qui s'est passé en Algérie au moment de la colonisation, ni la façon dont son père traite ses employés, par exemple, ou toutes ces choses-là. Et puis ensuite, l'amour.
Justement, l'amour représente quand même pour lui aussi une transgression.
Oui.
Parce que votre mère n'est pas forcément, ne correspondait pas forcément aux codes sociaux attendus par la famille, par le clan familial.
Pas vraiment. Et ça aussi, c'est un matériau incroyable pour un écrivain. Moi, j'étais une grande fan de Manon Lescaut, de ces figures de la femme perdue. Voilà, dans Manon Lescaut, l'abbé Prévost, voilà, le jeune Desgrieux, il voit Manon. Et dans l'instant, il veut la sauver de tout, d'elle-même et des autres. Et c'est ce qui se passe quand Harry va rencontrer Ève.
Ève.
Oui.
C'est son vrai prénom.
Non, mais justement.
C'est une clé romanesque.
C'est une clé romanesque où là, un petit peu, voilà, c'est non seulement la femme perdue, mais la femme pécheresse, la tentatrice. Elle aussi, d'une certaine façon, c'est un fantôme de sa vie, de sa propre vie. Il l'aperçoit en hiver, elle n'a ni faim ni froid, elle est tout à fait étrange. Et c'est comme une apparition pour lui. Et puis, l'amour comme grâce, comme élévation, mais aussi comme contenance et ses germes, une possible damnation. C'est un motif que j'avais déjà travaillé dans Les Enténébrés, que j'ai voulu reprendre ici, parce qu'on se dit que là, c'est la transgression. Il va enfin, Harry, pouvoir s'émanciper de son milieu, ce qu'il fait, mais il y a un truc beaucoup plus noir qui va le rattraper.
Évidemment. Mais elle symbolise véritablement aussi la liberté pour lui, parce qu'elle est quand même beaucoup plus ouverte sur beaucoup de choses. Voilà, elle permet aussi de le décloisonner de cette structure qui était la sienne.
Absolument. C'est-à-dire qu'elle n'est pas de ce monde très mortifère. D'où il vient le monde de la très grande bourgeoisie, comme on dit. Vous savez, il y a ce livre, je crois que vous l'aimez beaucoup aussi, Mars de Fritz Zorn, hein, qui montre comment cette reproduction sociale peut être tout à fait mortifère. Comment, dès l'enfance, dès votre prime jeunesse, vous êtes enfermé dans une logique où, au fond, vous ne pouvez pas avoir de désirs propres. Tous vos désirs propres sont des désirs sales. Vous ne pouvez pas non plus avoir des sentiments. Ou alors, vous devez de lire tel ou tel livre parce qu'il est attendu dans votre milieu que vous les lisiez. Vous vous devez de faire telle ou telle étude parce que vous n'avez pas le choix de faire autrement. Et vous vous devez de même d'épouser tel ou tel genre de femme parce que pourquoi faire autrement ?
Alors justement, je repensais à une romancière autrichienne aussi. Enfin voilà, on évoquait encore une fois la littérature germanique avec Fritz Zorn et donc ce chef-d'œuvre qui est Mars. Moi, je pensais à Elfried Jelinek, évidemment, qui a souvent évoqué cette question des normes sociales. En l'espèce, c'était en Autriche.
Oui, mais j'aime immensément Elfried Jelinek et je trouve qu'elle a une langue d'une férocité. On va dire que c'est le pendant féminin de l'alter ego féminin de Thomas Bernhardt, que j'aime aussi immensément. Et voilà, cette façon de s'attaquer comme cela aux normes sociales, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans la Pianiste, qui est un livre que j'adore, où Erika Kohut est une prof de piano complètement coincée dans cette reproduction des normes sociales, concertiste ratée, et sa mère attend d'elle qu'elle devienne, puisqu'elle n'est pas devenue cette brillante concertiste, qu'elle soit la meilleure prof de piano possible. On est dans une Vienne très corsetée par ce vernis de haute culture, mais où en même temps la pulsion de mort est là en permanence. Et Erika va à un moment donné complètement péter les plombs, mais c'est ce qui en même temps va... C'est sa tentative désespérée, tragique et grotesque, parce que chez Jelinek, le tragique se double toujours d'un truc très féroce, très grinçant. C'est sa tentative désespérée de s'affranchir de ce monde, oui.
D'ailleurs, pour l'anecdote, je crois qu'elle est également traductrice. Elle maîtrise très bien le français. Il me semble qu'elle a traduit, je crois, des pièces de Feydeau et Courteline. Là aussi, on reste encore une fois dans la question de certains modèles sociaux qui ont été véritablement croqués avec férocité par ces dramaturges. Bref, je me permets cette parenthèse. Quoique, Yelena, qu'elle a été portée à l'écran, en l'espèce la pianiste, par Michel Haneke, un cinéaste qui vous passionne.
Oui.
Pourquoi ?
J'aime immensément son cinéma et j'espère d'ailleurs qu'il reviendra au cinéma parce que j'y ai trouvé quelque chose de sans équivalent sur la question du mal. Comment nous sommes tous, chacun d'entre nous, des agents du mal ? C'est-à-dire, nous pouvons bien sûr être victimes du mal. Le cinéma de Haneke est plein d'enfants, par exemple, victimes du mal. Je pense notamment au Ruban Blanc. Mais comment nous pouvons aussi parfois être des agents du mal, c'est-à-dire soit en commettant le mal de façon délibérée, soit en commettant le mal en ne disant rien, en se taisant, alors qu'il aurait fallu dire quelque chose, il aurait fallu alerter. Un film de Haneke qui le montre très bien, c'est Caché, où à un moment donné, il y a un enfant qui est battu, et puis le personnage joué par Juliette Binoche s'apprête à dire quelque chose, mais finalement, elle ne dira rien. Pourquoi ? Parce que c'est le voisinage, parce qu'il ne faut pas faire de vagues. Et puis, cet enfant, finalement, va finir par mourir. Si elle avait dit quelque chose, si elle était montée, sonner, demander ce qui se passe, ça aurait pu épargner, peut-être sauver la vie de cet enfant. On ne sait pas. En tout cas, j'aime ce cinéma parce que je trouve que ce n'est pas un cinéma moralisateur, mais c'est un cinéma profondément moral. Parfois un peu trop dogmatique à mon goût, mais tout de même éminemment moral, oui.
J'évoquais cette question de l'image, car entre l'image et l'imagination, il y a évidemment un lien qu'on ne peut nier. Je le disais tout à l'heure, c'est un travail d'imagination, d'être à la recherche des images, et on a bien besoin d'une base au départ pour pouvoir provoquer l'imagination, et parfois ça prend le biais de documents, notamment de lettres. On a quelques lettres au cœur du livre. Est-ce que vous pourriez nous lire l'une d'entre elles et bien sûr la contextualiser ?
Alors, pour le contexte, donc, j'ai voulu restituer cette lettre telle qui m'a été transmise par ma mère, laquelle la tenait de mon père, qui la gardait, qui la conservait dans ses papiers. Nous sommes en 1968 et ce sont donc les employés d'une clinique, voilà, qui vont écrire à Harry, donc pour porter à sa connaissance une situation complexe. Monsieur Harry, nous avons l'honneur de vous demander les mêmes privilèges que votre père accorde à sa maîtresse, la directrice des infirmières, pendant les heures de son service. Nous aimerions aussi pouvoir jouir entre 13h et 15h30 d'un moment de détente. Nous n'avons pas la prétention de demander au directeur de nous prendre en charge à la place Jussieu, comme il le fait souvent en taxi ou dans sa voiture avec elle. Mais nos maris pourraient venir eux aussi nous cueillir en face de la clinique sans se cacher. Votre père vous écoute. Nous savons aussi que vous êtes le seul à nous considérer respectueusement. Nous vous demandons donc de nous aider à rendre à notre maison une autre atmosphère que celle d'un bordel. En effet, depuis que le bureau de la direction est moins souvent ouvert à la grande patronne, la poule faisandée lui colle aux fesses dès son arrivée et jusqu'à son départ. Mais au café, aux journaux, dans les couloirs, dans l'entrée de la clinique, au ibis de la rue Lacépède, cela provoque bien des rires et des inquiétudes. Nous avons toujours le même respect pour les personnes qui nous procurent du travail. Et nous avons aussi du respect pour votre mère, pauvre femme ignorante de tout ce qui se trame. Si la situation se poursuivait, nous serions dans l'obligation de l'en informer. Nous n'avons pas la prétention de juger l'attitude de la direction. Mais cette fois, nous n'accepterons plus, nous, infirmières, aides-soignantes, brancardiers et petites mains du petit personnel, d'être jetés à la porte sans aucune raison, sauf les raisons d'être contre le déshonneur, cordialement.
Voilà qui est quand même très, ma foi, très, très, très fort dans les mots. Je pense qu'il y a un élément qui doit être quand même noté, c'est la date
Oui.
La date.
Ben oui, ça se passe juste avant mai 68. Donc
avril
ça
68.
Se passe juste avant cette immense remise en cause d'une certaine autorité. On est au moment aussi où l'autorité des mandarins en médecine est particulièrement contestée. Et puis, je trouve que cette lettre, elle est toujours terriblement actuelle, non ?
Oui, oui, on peut, penser, on peut la plaquer facilement aujourd'hui.
Absolument, absolument.
Et à bien des contextes sociaux, quels qu'ils soient. Bref, justement, quand on tombe sur une lettre telle que celle-ci, bah, voilà, qu'est-ce qu'on pense ? Quels sont les songes qui nous traversent à ce moment-là ?
Je dirais que d'abord, on ne pense pas. En fait, quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants, je fouillais. Je fouillais dans les affaires parentales, à la recherche des origines, à la recherche de quelque chose. Et au fond, la première fois que je suis tombée sur certains des courriers qui se retrouvent dans Saturne, eh bien, vous voyez, c'est trop grand pour vous dans ces cas-là. Vous ne pouvez pas penser, les mots sont trop grands, les images qui se bousculent font que vous vous déconnectez de vous-même. On est obligé de considérer ça comme en arrière de soi pour pouvoir le penser. Les années passent, et là, voilà, quand j'ai décidé d'en faire un matériau pour le livre, j'étais dans une jubilation certaine, c'est-à-dire qu'on parlait de Jelinek et de féroce et de grotesque, et bien là,
on est dedans,
on y est complètement, c'est-à-dire qu'au milieu d'une tragédie, l'histoire de la mort d'un homme jeune, sa famille, où il se passe tout un tas de haine, de jalousie absolument terrible, et bien il y a aussi des moments comiques et des moments où chaque personnage de cette comédie humaine, ils sont tous un peu grotesques.
Mais on a une autre lettre.
Oui.
Qui est essentielle et dont la tonalité est, ma foi, bien, bien différente.
Oui, elle est tout à fait autre. Paris, le 25 novembre 1975. Pour ta voix qui me fait bander, pour tes silences qui m'enseignent, pour tes seins à foutre, ta bouche à jouir, pulpeuse, rosée, pour les perles de sueur sur tes épaules, pour les ailes de ton nez qui frémissent et se retroussent à la moindre contrariété, pour ton visage du matin, ton visage fardé, ton con velu, ton con rasé, ton con inextinguible, capable de m'assoiffer la bouche et la queue, pour tes sanglots quand tu as joui entre mes bras hier en haut des marches d'escalier, tes yeux rivés dans les miens, pour tes mensonges d'enfant sauvage, pour toutes les larmes que tu as versées pour ta mère, pour ce bébé que tu attends et qui sera le couronnement de tout, j'en suis sûre. Ève, tu es mon unique et je suis à tes genoux. On me dit que je devrais te haïr, mais je ne peux que haïr tout ce qui n'est pas toi. Je devrais te fuir, mais on ne fuit pas ce qu'on cherchait depuis toujours. On s'y jette comme on entre en religion. La joie avec toi vaut bien plus que toutes les richesses du monde. Tu es grande, d'une grandeur amère qui ravage tout, détruit tout, mais sort les gens d'eux-mêmes. Le plus drôle, c'est que tu ne le sais même pas. Non, je ne crois pas que tu aies idée de ce que tu causes ni pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu ne sais pas non plus ce que tu dis et c'est ça qui te sauve. Je ne dors plus, je ne mange plus. Ma poitrine me brûle, mon sang est comme du plomb, je n'ai plus de mémoire, tu abolis tout. Je n'ai jamais rêvé que de te tenir tout contre moi. Je ne vaux rien sans toi. Je te veux jusqu'au bout de tout. Tout cela est immoral, peu m'importe, scandaleux, peu m'importe. Je vais finir de perdre l'estime de mes parents et de mes amis, peu m'importe. Me faire insulter par mon frère, peu m'importe, je m'en fous. Je me fous de tout ce qui n'est pas toi, de tout ce qui n'est pas nous. Dis-moi, je t'en prie. Si je t'ai perdu, alors je partirai sans me plaindre. Mais s'il y a encore en toi la plus petite velléité de me pardonner, alors, mon amour de toujours, viens. Harry.
Sarah Chiche, pourquoi avez-vous tenu à recopier, à insérer cette lettre au cœur de Saturne ?
Je voulais faire entendre comment ces deux êtres se sont aimés d'une façon à la fois très sentimentale, très charnelle, même un peu pornographique. Et donc, dire qu'entre ces deux-là, il y avait eu toutes ces gammes de l'amour. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de lecteurs et certains m'ont dit « Oh, mais comment est-ce que vous avez pu mettre ça sur vos parents ?» Et la réponse est la suivante, c'est que ce ne sont plus mes parents, je les traite comme des personnages, donc comme un homme et une femme. Et donc, à partir du moment où je suis totalement désengagée, quoique... Ça me fait toujours quelque chose, pour être tout à fait honnête, à chaque fois que je lis cette lettre, je les vois. Je les vois en arrière de mes yeux. C'est comme le prologue, à chaque fois que je le lis, je le vois, lui. Alors même qu'enfant, je ne le voyais pas. Mais ça, c'est quelque chose d'une hantise propre à l'écriture. Donc, c'est une façon de faire en sorte que ça ne soit pas perdu, que mes parents soient toujours avec moi. C'est les pauvres moyens que je... Voilà, on se trouve tout un tas de moyens et voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Pour autant, il y a aussi cette distanciation radicale. Et donc, je les traite comme dans n'importe quel personnage de roman où il est question d'un grand amour, d'un truc hyper passionnel, hyper sexuel et hyper romantique en même temps.
Alors justement, est-ce qu'il y a certains passages que vous revendiquez ouvertement comme de la fiction pure, où vous êtes pleinement consciente que ça n'est pas la réalité, même ça peut même être parfois l'inverse de la réalité, mais vous revendiquez la présence au cœur de cette œuvre littéraire.
Ah oui, mais alors c'est très difficile de faire le tri comme ça. Ben pour la guerre d'Algérie, par exemple, je ne sais pas dans quelles conditions exactes ils sont partis. Pour le moment aussi de ma dépression mélancolique, il y a des choses... Un roman, ce n'est pas un journal clinique. Donc il y a des choses que je ne dirais jamais dans un livre qui ne concernent absolument pas la littérature, qui ne sont pas utiles pour l'économie de ce livre ou pour d'autres, quand j'ai écrit sur Pessoa et la mélancolie. Donc ça, on ne va pas infliger ces choses-là au lecteur. Donc là, c'est là aussi qu'intervient le travail de la fiction. Oui.
Alors vous avez donné le mot-clé mélancolie, justement. On l'utilise volontiers, ce terme, mais comment le définiriez-vous précisément ?
Eh bien, la mélancolie, ce n'est pas un petit spleen poétique, une petite nostalgie douce, comme une espèce de soi qui viendrait vous retrouver et vous entourer. La mélancolie, c'est un état où ce n'est pas que vous êtes simplement déprimé et que vous avez perdu de l'intérêt pour ce qui vous intéressait avant. Votre travail, les amours, vos amis, la vie sociale. Non, il n'y a plus de moi. C'est-à-dire que... Alors Freud a une très belle phrase, il dit « l'ombre de l'objet tombe sur le moi ». Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes tout entier tapissé de nuit, tapissé d'une substance noire et opaque. Et... tout a été de toute éternité déjà perdu. C'est même pas qu'il n'y a plus rien à perdre, c'est que vous vous sentez ni vivant ni mort, en fait, dans un état de déréliction. C'est ce que raconte Sartre dans La nausée, c'est ce que raconte le cri de Munch, c'est ce que raconte le moment où vous êtes confronté à la nudité la plus grande de l'existence et où, au fond, derrière les peaux, même les plus jolies, même les plus fardées, vous voyez toujours comme en anticipation le cadavre. C'est ça, en fait. C'est le travail de la mort en soi d'une façon telle que tout est calciné, tout est perdu.
Car la deuxième moitié du livre, autant la première, j'allais dire, était assez factuelle, assez narrative. Cette deuxième partie de Saturne est beaucoup plus, j'allais dire, laisse beaucoup plus une part assez, assez large aux considérations sur la mort, sur le temps, la mélancolie, etc., etc. Pour vous, le livre ne pouvait être constitué que de ces deux entités aux tonalités très différentes.
C'est manie et mélancolie, oui. En fait. Manie parce que exubérance de ce monde, exubérance de la richesse, exubérance de l'amour entre Ève et Harry, exubérance grotesque aussi avec la lettre des employés, on l'a vu. Et puis la deuxième partie, c'est effectivement une écriture que j'ai souhaitée tout à fait différente, alors plus blanche pour dire ce que c'est que l'essence d'une enfance hantée par le deuil. Et la première partie, c'est le père. La deuxième partie, c'est la fille. Au fond, qui est le fantôme de l'autre, on sait plus très bien. C'est-à-dire que...
Parce que le roman, j'allais dire, si on devait le classer en un genre, j'ai presque l'impression qu'on est dans le fantastique et dans le roman de fantôme.
Oui, histoire de fantôme, oui, absolument. Oui, ben, j'aime beaucoup Henry James aussi. Et récemment, je lisais Peter Stamm, La douce indifférence au monde. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt.
On reste chez les écrivains germaniques.
Ouais, ah oui, ben, y a un
c'est un grand écrivain, Stamm.
Oui, oui, oui. Livre magnifique. Et donc, il s'agit bien de ça, de ces histoires de hantise et de l'écriture aussi comme fantôme.
Qu'est-ce que les Japonais nomment le takotsubo ?
Oui. Alors, takotsubo, la traduction littérale, ça veut dire piège à poulpe. C'est la sidération du cœur. La sidération physique, c'est-à-dire que quand vous vivez quelque chose de trop fort, de trop douloureux, une rupture, un deuil, un licenciement, assister à un attentat ou à un accident, en tout cas quelque chose de tel que vous allez littéralement, votre cœur va se briser, les muscles vont s'arrêter, tout va s'atrophier, se rétrécir subitement et on peut mourir comme cela. C'est le syndrome du cœur brisé. Et en réfléchissant à la façon dont je pouvais expliquer la mélancolie, au fond, je trouvais qu'il était intéressant d'appliquer ce syndrome physique du takotsubo à ce qui se passe quand on tombe en dépression mélancolique, c'est-à-dire cette sidération non plus physique, quoiqu'elle finit par devenir physique, mais psychique également.
On a une anecdote que je trouve absolument glaçante, c'est lorsque votre oncle vous recontacte pour vous dire qu'il vous a trouvé enfin une possible demeure en quelque sorte.
Oui. Vous voulez que je c'est plus, peut-être plus facile à c'est peut-être plus facile à lire.
Parce que c'est un passage assez
oui oui.
Étonnant.
Voilà. Donc on est au début de la deuxième partie. J'étais dans un train quand mon oncle, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis une vingtaine d'années, m'appela au téléphone pour me dire d'un trait d'une phrase que l'on avait enterré ma grand-mère Louise le matin même, que j'allais hériter et que rendez-vous était pris chez le notaire ainsi que dans son appartement pour le vider. Au moment précis où je rentrais en France, après une année d'exil, on avait ouvert, sans que j'en sache rien, le caveau dans lequel se trouvaient déjà les restes de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-mère pour y empiler un nouveau cercueil. Caveau dans lequel me glissa ensuite mon oncle, il y aurait toujours, malgré les dissensions au sein de notre famille, une place pour moi. Je lui répondis que je serais au rendez-vous. Je descendis du train, traînant ma valise jusqu'à un banc. Je m'assis pour allumer une cigarette. Mes mains tremblaient sans moi.
Comme si vous étiez d'une certaine manière rattrapé par cette identité.
Oui, et puis c'est ça au fond. Ben oui, être au rendez-vous. Il y aura toujours une place dans le cercueil pour toi. Donc, la mélancolie, c'est ça, c'est être au rendez-vous de la mort qu'on vous promet. C'est l'identification au cadavre. Comme si, oui, Saturne, ça raconte cela aussi. Est-ce que l'on peut échapper à ces injonctions familiales-là ? Est-ce qu'on peut s'en affranchir ? Est-ce qu'on peut prendre la tangente ? Est-ce qu'on peut fuir de tout son être vers une vie tout à fait autre ? Je veux croire que oui, sinon je ne serais pas là.
Justement, pourquoi ce titre, Saturne ?
Ah, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a ce tableau de Goya que j'aime énormément, Saturne dévorant un de ses fils, et sur lequel on voit le dieu Saturne qui, dans l'horreur de son propre geste, enfourne dans sa bouche, tout cru, un de ses enfants. Donc c'est vraiment la question de la vie qui dévore son avenir et de cet art malheureux avec lequel, bien malgré eux, parfois, pas toujours, les adultes vont mettre à mort les éléments les plus vulnérables de leur propre famille, à savoir les enfants, première raison. La deuxième raison, c'est parce que Saturne, c'est la planète de l'automne. Mon père est mort en automne et c'est la planète de la mélancolie aussi.
On y revient toujours.
On y revient toujours. Vous savez, la mélancolie, ce sont... Voilà, il y a les anneaux, hein, ce sont des boucles aussi. Hein, c'est vraiment l'éternel ressassement du même, où les objets, toujours déjà perdus, reviennent. Et donc, Saturne, j'en ai fait aussi le lieu de l'écriture. C'est-à-dire, c'est le seul lieu où je peux être à la fois avec les vivants et les morts, sans renoncer aux uns ni aux autres. C'est le lieu où je me sens le mieux. Mais c'est pas triste, c'est pas sinistre pour autant. C'est pas parce qu'il est question de mélancolie que forcément ça doit être glauque, pour reprendre comme dirait ma fille. C'est-à-dire que c'est une façon d'évoluer dans l'existence tout à fait autre. C'est-à-dire que les mélancoliques vivent en permanence aussi avec leur mort, dans leur mort, dans leur monde perdu. Mais c'est ça aussi qui les rend heureux. Au fond, c'est d'être en permanence avec ce grand cortège des autres, invisible. Et alors, c'est une façon, évidemment, d'être tout à fait seul et de ne pas l'être en même temps. Et c'est ça que permet l'écriture, oui.
Mais l'écriture, elle prend évidemment bien des formes, bien des traits. J'aimerais savoir, par exemple, est-ce que vous avez tenu un journal intime, qui n'est pas forcément destiné à publication, mais pour vous ?
Oui, quand j'étais petite, oui. Oui, j'ai tenu des journaux et puis un jour, ma mère l'a découvert. Ça a été un grand moment de honte et d'humiliation. Mais c'est un truc que je raconte au début de... Oui, dans le premier tiers de personnes, de Pessoa. C'est qu'en fait aussi, on écrit peut-être aussi pour ça, pour devenir illisible. Illisible par la mère, se soustraire du regard maternel. Et le triomphe absolu, c'est quand on vous dit « je ne comprends pas ce que tu écris ». C'est l'étrangeté totale. Alors là, c'est une réussite parce qu'on sait qu'on a réussi à partir au plus loin. Là, on devient invisible, opaque, secrète. Ça, c'est un truc auquel je tiens beaucoup.
Est-ce que fondamentalement, sur le travail de l'écriture, lorsque vous avez signé des essais, enfin voilà, on pouvait parler d'éthique du Mikado autour du cinéma de Michel Haneke, par exemple, est-ce que votre travail d'écriture est fondamentalement différent de celui qu'on peut effectuer pour un roman, ou est-ce qu'il y a quand même des ponts entre les deux démarches ?
Je dirais que c'est une écriture tout à fait autre. J'aime beaucoup la rigueur de l'essai. Et puis, j'aime beaucoup le travail de recherche préparatoire extrêmement conséquent lié à cela. C'est-à-dire que quand vous écrivez un essai, vous devez lire tout un tas d'autres livres, les ingurgiter, les assimiler, et puis recréer des territoires. Et les notes de bas de page permettent encore d'autres styles d'écriture. On se met moins en danger psychiquement en écrivant un essai. On peut écrire sur la mort, on peut écrire sur l'amour, on peut écrire sur le mal dans le cinéma de Haneke, mais voilà. On reste, le processus de sublimation intellectuelle permet d'être tout de même à l'abri. Dans les romans, pas du tout. Hein, ça brûle, mais comme la neige brûle. C'est-à-dire que c'est absolument glacé et glaçant. Et bien des fois, en écrivant Saturne ou Les Enténébrés, à certains moments, il fallait arrêter parce que ça provoque un grand effroi calme. C'est trop. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va marcher.
La psychanalyse, on sait, encore une fois, fait un travail particulièrement essentiel sur les mots. J'aimerais bien qu'on, puisque c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, parfois un peu à tort et à travers, et qui est le titre d'un de vos romans, L'Emprise.
Oui.
Puisqu'on, voilà, c'est un mot qu'on entend un petit peu partout aujourd'hui. Je m'adresse à vous en tant que romancière, quelqu'un qui utilise les mots dans un travail fictionnel, mais aussi en tant que psychanalyste. Qu'est-ce que l'emprise ?
Ah ben, l'emprise, c'est la façon dont possiblement un être va s'approprier un autre. Là, on touche encore à la question du mal. Derrière la question de l'emprise, il y a la question du mal. C'est-à-dire comment est-ce que, enfant, adolescent ou adulte, vous pouvez tout à coup vous retrouver sous l'emprise d'un autre, c'est-à-dire totalement assujetti à un autre qui va faire de vous son objet. Et donc,
parce que c'est aussi le thème, d'une certaine manière, de
oui,
Saturne.
Absolument. C'est la façon dont Harry, dans la première partie, va être l'objet de ce monde et l'objet de ses parents, l'objet de son frère aussi et l'objet de Ève. Et la narratrice, dans la deuxième partie, va être l'objet des fantômes. Oui, je crois que justement, ce qui m'intéresse, moi, c'est la déprise. Et donc, c'est pour ça que j'écris aussi... L'affranchissement, c'est-à-dire la liberté extrême que l'on peut trouver à s'affranchir de livre en livre, de plus en plus de soi comme des autres. Et puis aussi la question de l'enfant. Si on parle d'emprise, on parle d'enfant et d'enfant démuni, celui qui ne parle pas, celui qui n'a pas les moyens, pas les mots pour le dire. Donc à chaque livre, sans doute, je refais cette traversée de l'emprise à la déprise. Quoique avec celui-ci, il y a quelque chose qui s'est, je le sens bien, qui s'est clôturé, qui s'est fini.
Avez-vous déjà un autre travail romanesque en cours ou pas ?
Oui, monsieur.
L'interrogatoire.
Oui, j'en ai un.
Est-ce qu'il vient en connexion directe ?
Non, absolument pas. Ce sera très différent. Je crois que là, il y a clôture d'un cycle autobiographique. Donc, je veux m'attaquer à quelque chose de tout à fait autre. Ça va me prendre un peu de temps, mais enfin, je ne suis pas pressée. Donc, voilà, je vais prendre le temps qu'il faut.
Bon, et enfin, pour terminer cette rencontre, Sarah Chiche, bah, j'aimerais bien encore vous entendre avec un petit extrait de Saturne. Qu'est-ce que vous aimez lire aussi ?
J'aime bien lire la fin quand même.
Je peux le dire tout de suite, nous ne sommes pas dans un roman à suspense avec une grande révélation thématique essentielle, donc c'est pas très grave si vous lisez la toute fin de Saturne, Sarah.
Mais ce que vivent les gens comme moi, c'est autre chose. Pour nous, le temps du deuil ne cesse jamais, car nous ne souhaitons surtout pas qu'il cesse. Nous ne voulons pas de son évacuation forcée, nous ne tendons pas à surmonter la perte, nous n'aimons pas être consolés, séparés de la chose perdue. Nous vivons en permanence dans et avec nos morts, dans le sombre rayonnement de nos mondes engloutis, et c'est cela qui nous rend heureux. De Saturne, astre immobile, froid, très éloigné du soleil, on dit que c'est la planète de l'automne et de la mélancolie. Mais Saturne est peut-être aussi l'autre nom du lieu de l'écriture, le seul lieu où je puisse habiter. C'est seulement quand j'écris que rien ne fait obstacle à mes pas dans le silence de la tonne et que je peux tout à la fois perdre mon père, attendre comme autrefois qu'il revienne et enfin le rejoindre. Et je ne connais pas de joie plus forte. Dans un poème de Gustave Schwab, un cavalier veut atteindre le lac de Constance et le traverser en barque. C'est l'hiver. Tout est enseveli sous la neige. Sans le savoir, le cavalier s'avance au galop sur la glace. Quand il atteint enfin l'autre rive, étonné de n'avoir toujours pas vu le lac, il demande où il se trouve. On lui apprend qu'il vient de le traverser, on le félicite. À ces mots, il se fige. Son cœur cesse de battre. Il s'écroule, terrassé. Revenir sur ce qui fut le lieu de notre anéantissement n'est pas possible sans se rendre compte enfin avec horreur de l'ampleur de ce à quoi on a survécu. Et pourtant un jour, caché dans la grande pulsation d'une ville cernée de montagnes où l'on pensait ne jamais revenir, on écrit, depuis l'autre côté d'un lac, enfin traversé sans s'y noyer, d'une toute petite main, tremblante, honteuse, si peu sûre d'elle, ce que l'on chuchotait déjà dans le noir d'une chambre d'enfance où l'on parlait tout seul aux étoiles et aux planètes de papier collées au plafond. J'ai maintenant, autour des yeux et le long des joues, les rites que mon père n'aura jamais. Ce livre a usé mes forces. Mais la seule chose qui compte, c'est que tous ceux que nous avons aimés, tous ceux que nous avons pleurés, tous ceux que j'ai imaginés, tous ces rêves évaporés, tous ces lieux où je ne suis jamais allée, tous ces affrontements, ces passions, ces déchirures qui n'existent plus que par les souvenirs de souvenirs que l'on m'a racontés, la totalité du monde où nous sommes apparus, tout ce qui nous a tués, lui et moi, tout cela ne nous atteindra désormais pas plus qu'un souffle de vent qui renverse un château de cubes au pied d'une enfant en train de jouer. J'entre dans l'automne de Saturne, et sur la route où je pars, seul, mais avec mon père, seul, mais avec ceux que j'aime, seul, mais avec les mélancoliques, les amoureux, les endeuillés, les intranquilles, seul, mais caché dans la foule des vivants et des morts, tout est perdu, tout va survivre, tout est perdu, tout est sauvé, tout est perdu, tout est splendide.
Merci beaucoup, Sarah.
Merci à vous.
Merci d'avoir joué le jeu de cette rencontre virtuelle dans le cadre du Festival Effraction. Et donc, on recommande évidemment la lecture de ce roman, Saturne, de Sarah Chiche, aux éditions du Seuil. Merci à tous.